Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Blooming New, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Fanny Nussbaum, docteur en psychologie et chercheur en neurosciences, mais surtout l'autrice du livre qui nous réunit aujourd'hui, « Le secret des performants », paru récemment aux éditions Odile Jacob. Dans ce podcast, l'autrice nous explique pourquoi l'intelligence et la performance sont des états accessibles à tout le monde. Bonjour Fanny Nussbaum.
Bonjour Amal.
Alors vous êtes docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1.
C'est ça.
Vous êtes aussi l'autrice « Le secret des performants » paru récemment chez Odile Jacob.
Exactement.
Alors moi, votre livre m'a mis une claque. Je l'ai trouvé brillant, ouais. Magnifique, extraordinaire. Vous rendez accessible l'inaccessible, la performance, l'intelligence. D'ailleurs, dans votre livre, vous associez performance avec l'intelligence, mais vous précisez aussi que l'intelligence est utilisée dans des cas qui ne parlent pas forcément d'intelligence.
Oui.
Alors, avant de commencer à rentrer effectivement dans le secret des performants, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que recouvre l'intelligence, comment elle se mesure. Et puis après, d'ailleurs, on va parler du QI, on en parlera ensemble parce que vous parlez aussi du QI, vous remettez en question l'utilisation de cet outil. Donc, mais bon, on va commencer par qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce qu'on met derrière l'intelligence ?
Tout à fait, oui. Et puis on verra que je ne remets pas tout à fait en question l'utilisation du QI, mais le fait qu'on l'utilise en disant que c'est pour mesurer l'intelligence. Je pense que c'est un très bon outil, je l'utilise d'ailleurs dans mon centre, mais qu'il est là pour mesurer des capacités de raisonnement et pas pour mesurer l'intelligence. Donc ça fait, à mon sens, une bonne introduction pour expliquer ce que pour moi est l'intelligence et ce que n'est pas l'intelligence. Je crois que jusqu'à présent, on a toujours présenté l'intelligence comme étant justement cette capacité de raisonnement. Quand on parle de quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui c'est un penseur, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui dont on peut suivre le raisonnement, ou parfois pas même, hein, même si vous avez devant vous un Cédric Villani. Qui va vous expliquer comment il est parvenu à... Alors, je sais pas exactement sur quoi travaille Cédric Villani, bien que j'admire beaucoup cet homme, mais comment il est parvenu à trouver telle formule mathématique ou à élucider tel élément mathématique. Évidemment que dans les faits, vous ne parviendrez pas à le suivre si vous êtes un néophyte comme moi en mathématiques. Mais... rien que le fait que vous soyez conscient qu'on peut suivre le raisonnement de Cédric Villani si on veut vraiment s'y mettre, je crois que ça flatte notre ego parce que parce qu'on se dit tiens, on peut contrôler ça. Et donc, étant donné que ça flatte notre ego, on va dire « Ah, il est intelligent ». Il est intelligent parce qu'il peut parler à notre raisonnement. Donc, jusqu'à présent, on a élevé au rang d'intelligence le raisonnement, les capacités de raisonnement. Et quelque part, je trouve que ce n'est pas juste parce que le raisonnement, c'est une toute petite partie de la cognition. C'est la partie la plus consciente. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça nous plaît davantage, parce que c'est contrôlable ce qui est conscient. Mais ce qui est conscient, c'est simplement 5 à 10% de notre activité cérébrale. Je trouve que ce n'est pas juste que seulement cette partie-là soit élevée au rang d'intelligence. Et puis, je trouve que ce n'est pas juste non plus, parce que ce n'est pas de l'intelligence en mouvement. Ça ne parle pas de mouvement, de quelque chose de dynamique, Ça parle seulement d'une capacité. Quelqu'un a une capacité de raisonnement. Après, c'est pour ça qu'on dit souvent haut potentiel. Ça dit, bah, on a une capacité, puis après, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Mais pour moi, il n'y a pas d'intelligence là, au potentiel de quelque chose. D'ailleurs, ça, pour moi, c'est un terme un peu fourre-tout parce que, on est tous au potentiel de quelque chose. Vous êtes sûrement plus au potentiel que moi dans bah, la communication, puisque c'est votre métier, dans le fait d'aller chercher chez l'autre en tant que journaliste, intervieweuse, d'aller chercher chez l'autre vraiment la substantifique moelle de sa pensée. Vous êtes bien meilleur que moi là-dedans. Donc, vous êtes au potentiel de l'interview, puis moi, je suis au potentiel d'une sorte de pensée qui va aller décrypter l'humain. Donc, tout le monde est au potentiel de quelque chose. Si on se voit les uns par rapport aux autres, ben, on a tous par rapport à une certaine norme, on va tous avoir un petit plus quelque part. Donc, au potentiel, ou de dire qu'on a des capacités, ça dit tout et ça dit rien. Oui, on a ces capacités et ces capacités-là vont être utilisées ou pas. Et en fait, on fait une confusion entre intelligence et capacité parce que quand on voit des capacités de raisonnement, on va dire c'est ça l'intelligence. Mais en fait, ce ne sont que des capacités de raisonnement. Et après, l'intelligence, c'est voir comment ces capacités-là sont révélées. Donc, quelqu'un qui a de grandes capacités de raisonnement, puisque je suis partie, je ne sais pas pourquoi, sur Cédric Villani. Disons que voilà, Cédric Villani a de grandes capacités de raisonnement. Et il y a des moments, quand il est en intelligence, c'est le moment où il va savoir, où il va être. C'est pas seulement où il va savoir, parce qu'il y a aussi l'environnement qui fait, où il va être dans un environnement qui va révéler ses capacités de raisonnement-là. Là, il est en intelligence. Par contre, il y a des moments où Cédric Villani sera très très con, comme nous tous, où ses capacités de raisonnement, si je ne sais pas s'il s'est pris une cuite, on ne pourra pas dire que ses capacités de raisonnement à ce moment-là seront vraiment révélées. Et c'est pour ça que je dis très très con. C'est parce que, pardonnez-moi, très très stupide pour le dire de façon plus moins vulgaire. À ce moment-là, ses capacités ne seront pas révélées comme quand il est en vacances. Cédric Villani en vacances, où il n'est pas là en train de montrer vraiment, de faire le show de ses capacités de raisonnement, bah, il sera comme vous et moi, il sera en compétence, il sera. Voilà, c'est pas là qu'il sera en intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas quelqu'un de bien, qu'il ne pourra pas avoir une conversation chouette, etc. Mais c'est pas à ce moment-là que ses capacités vont être dans un écrin. C'est comme un bijou. Ben, quand le bijou est dans l'écrin, là, il est révélé au mieux quand il est sur une femme rayonnante, une belle bague sur une femme rayonnante. Wow, c'est là que une belle bague sur une femme ou un homme d'ailleurs, hein, qui va être en énergie basse, qui va pas être au mieux de ce qu'il ou elle peut donner, bah ça va être juste une bague, même si c'est avec le plus beau diamant, etc. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de montrer de l'intelligence. Voilà, c'est un processus dynamique.
Alors, dans votre livre, vous faites une grosse aparté sur le QI, puisque c'est aujourd'hui l'outil qui est
Oui.
utilisé pour mesurer l'intelligence. Et moi, je découvre qu'en fait, le QI mesure, bah, ce que vous expliquez, une partie simplement des capacités, c'est ça, mais en plus
C'est
qui sont
ça.
ponctuelles, qui sont figées dans le temps.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, là aussi, il y a souvent un amalgame qui est fait. Toujours entre capacité et intelligence, mais disons que les capacités, et c'est là que c'est délicat, c'est subtil, même pour nous qui étudions ça au quotidien, les capacités, ce sont des attributs, et étant donné que ce sont des attributs, on se dit que ça ne bouge pas, que ça n'évolue pas. Et bien sûr, une capacité par rapport à un état, c'est beaucoup plus robuste, c'est vrai, c'est beaucoup plus fiable, enfin beaucoup plus constant plutôt dans le temps. Un état, comme ce que je décrivais de l'état d'intelligence, c'est fluctuant dans une même journée ou même d'une minute à l'autre, ça peut changer. Une capacité, voilà, on sait que c'est beaucoup plus solide. Mais ça n'empêche que ça bouge quand même et que mesurer vos capacités de raisonnement ou les miennes le matin et le soir, bah, il va y avoir des différences. Pendant très longtemps, il y a encore des spécialistes aujourd'hui qui disent que le QI, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et je donne quelques données, quelques références de la littérature scientifique qui montrent que ce n'est pas vrai que le QI, cette belle étude dont je ne me souviens plus le nom des auteurs, j'ai un petit problème avec le fait de me rappeler des noms, mais qui est parue dans Nature en 2011. Montre qu'à 4 ans d'intervalle, on a fait passer à des enfants, là c'est une étude sur les enfants, mais y en a d'autres sur les adultes, à 4 ans d'intervalle, on a fait passer le test du QI avant-après. C'est qu'il faut toujours un an entre test et retest. Donc là, c'est 4 ans d'intervalle, on est bien dans les clous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de phénomène d'apprentissage. Et on a vu qu'il y avait en moyenne 20 points de différence sur une même personne, dans cette population, pour les résultats au QI, donc en plus ou en moins. Hein, ça pose plein de questions pour moi. Ça pose la question évidemment de la fiabilité ou de ce qu'on. Il y a certains de mes confrères qui sont brillants, j'allais dire aussi, je me la joue un peu, mais qui sont des gens voilà, qui sont tout à fait solides dans leurs connaissances et qui disent ben, on devrait appeler ces gens. Intelligents, etc., ce que moi j'appelle les philo-cognitifs, on devrait les appeler les hauts QI. Mais je ne crois pas qu'on devrait les appeler comme ça, non seulement parce que le QI n'est pas si robuste que ça, c'est une photographie de l'instant, des capacités de quelqu'un dans l'instant, mais en plus parce que, en fait, quand on décrit des philo-cognitifs ou ce qu'on appelait autrefois des hauts potentiels surdoués précoces, ou mon amie Jeanne Siofachin les appelle les zèbres, quand on les décrit, on décrit un fonctionnement qui est presque lié à une personnalité ou à une appétence pour la pensée. Ce sont des gens qui, comme je le dis dans les philo-cognitifs, n'aiment que penser. Évidemment, ils n'aiment pas que ça. Hein. Il y en a qui aiment bien boire, manger, je ne sais pas quoi, mais qui ont vraiment ce besoin permanent de tout penser, de tout faire passer par le filtre de la pensée. Et par contre, si vous me demandez est-ce qu'on est philo-cognitif à vie, je vous dirais ben oui, à moins qu'on soit atteint de la maladie d'Alzheimer ou qu'on soit plus en santé mentale, ça change pas. On est philo-cognitif à vie. Mais si vous me demandez est-ce que le QI change, peut évoluer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, etc. Je vous dirais oui. Donc on ne peut pas les appeler les hauts QI puisque c'est quelque chose qui est mouvant, ce QI. Alors bien sûr, c'est plus robuste que l'état d'intelligence qui peut lui fluctuer d'une seconde à l'autre, mais quand même, ce n'est pas une donnée qui est immuable. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle. Je crois qu'on ne peut pas utiliser ce QI pour dire quelqu'un est intelligent ou quelqu'un est philo-cognitif. Attention, pour moi, l'intelligence, ce n'est pas la philo-cognition, hein, mais je le dis pour ce qu'on disait autrefois.
Est-ce qu'on
Pardon.
pourrait définir la philo-cognition pour ceux qui n'ont pas lu votre premier livre, qui
Oui,
est
pardon.
complètement au concept de la philo-cognition? Donc, on a compris, c'est ceux qui pensent, qui aiment penser.
C'est ça. Les philo-cognitifs, ce sont ceux qui ont un besoin presque addictif, une compulsion de pensée, et qui passent tout par le prisme de la pensée, donc par le filtre de la pensée, c'est-à-dire qu'ils vont dans le quotidien. Alors, on ne sait pas si on nous entend, mais vous avez votre main posée sur le côté de votre tête, enfin, votre tête repose sur votre main. Eh bien, le philo cognitif, il va se dire bah, pourquoi elle a mis sa tête comme ça sur sa main, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi elle m'a fait un sourire de cette façon et pas de telle autre, etc. Pourquoi, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, pourquoi, pourquoi le, je donne cet exemple dans le livre, pourquoi. La chaleur, il fait plus froid à la montagne alors que la chaleur monte. Voilà des questions du quotidien. Dès qu'on se retrouve à la montagne, on va se poser cette question-là. Puis dès qu'on se retrouve devant Amal qui met sa main, sa tête sur sa main, on va se poser cette question-là. Mais on peut se poser aussi plein de questions sur l'univers. Est-ce qu'il a des limites? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, ça, ce sont les questions assez typiques de tous les philo-cognitifs. Il n'y a pas un moment où. Ou c'est simple, c'est évident, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Ça, ce sont les philo-cognitifs. Et donc, j'ai proposé trois points, trois grands points de la philo-cognition parce que la philo-cognition, c'est un peu un fourre-tout aussi. Enfin, ce qu'on appelait le haut potentiel, la surdouance, c'était devenu un peu un fourre-tout quand on disait, ah ben, il est hypersensible, alors il est philo-cognitif, il a de l'humour, alors il est philo-cognitif. Enfin, c'était devenu un petit peu, tout le monde se retrouvait un peu là-dedans, où tout le monde allait dire, mon enfant est philo-cognitif parce qu'il a beaucoup d'humour. Alors, bien sûr, l'humour en fait partie, mais pas que. Il y a plein de philo-cognitifs qui n'ont aucun humour, aucune capacité d'autodérision. Donc, c'était pas si simple que ça, et je pensais que ça avait besoin d'être recirconscrit. Donc, il y a trois points de la philocognition qui sont l'hyperacuité, le fait justement d'être hypersensible, mais sur le plan émotionnel et sensoriel. Après, ce qu'on en fait, c'est encore autre chose. L'hyperlatence, le fait d'avoir la pensée qui va du coq à l'âne et d'avoir des eurekas un peu plus souvent que les autres, peut-être. Je l'ai perdu, alors ça c'est incroyable, ça c'est dingue. On va dire l'extrapolation, ou c'est dingue la fille. Elle a écrit son livre, elle en parle pendant des heures, des tonnes de conférences, et elle oublie son tout premier point. En fait, les lecteurs me le rappelleront. C'est le fait d'extrapoler, d'avoir besoin de toujours aller plus loin dans la pensée, trouver des pensées alternatives, voilà, de trouver le et si on pouvait penser comme ça et pas autrement. Ça, ce sont les trois points de la philocognition. Et voilà, que dire d'autre? C'était.
En fait, je vais relier ça avec l'état d'esprit du performant, puisque c'est quand même l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Vous dites que le performant ne réfléchit pas, il décide vite, que le mouvement mental tend toujours vers l'avant. Est-ce que le performant, on peut lier la performance avec la philocognition, enfin le performant est-il un philocognitif? Quel est l'état d'esprit du performant?
Alors, non, le performant n'est pas forcément un philo-cognitif. Et justement, c'est ça c'est un petit peu ça en quoi je me sens un peu Robin des Bois. parce que j'ai l'impression, avec ça, qu'on redonne l'intelligence à tout le monde, qu'on redonne l'intelligence au peuple, quelque part. Jusqu'à présent, voilà, on voyait l'intelligence dans ses capacités de raisonnement. Aujourd'hui, avec cette proposition, on dit que l'intelligence, c'est un état que tout le monde peut atteindre. Et il y a trois degrés de l'intelligence qui sont l'antiphase. L'antiphase, c'est quand on n'est pas. Quand on n'est pas en phase avec son environnement, quand on ne se sent pas bien, quand Cédric Villani a pris sa cuite et que là, à ce moment-là, il n'est pas complètement raccord avec lui-même, avec son environnement. Là, il est en antiphase, il est décalé par rapport à son environnement et donc il ne peut pas être en intelligence, il ne peut pas révéler, donner le meilleur de lui-même. Je suis désolée pour Cédric Villani, je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Mais ce sera notre exemple pour aujourd'hui. Ensuite, le deuxième degré de l'intelligence, c'est quand on est en compétence. En compétence, notre Cédric Villani, philo-cognitif s'il en est, hein, parce qu'évidemment, Cédric Villani, c'est un philo-cognitif. Donc, Cédric Villani va être en compétence. Ça veut dire que là, il va simplement répondre correctement aux attentes de son environnement. Vous, moi, on est la plupart du temps en compétence. Là, dans notre conversation, on est en compétence, on répond correctement. Vous faites votre boulot très bien. Moi, je crois que je le fais aussi correctement. On n'est pas en train de réinventer quelque chose, mais en tout cas, on répond correctement aux attentes de l'une de l'autre. Le courant passe bien. Donc, Cédric Villani, là, il est dans une conversation avec un pair. Il se pose des questions. Il se renvoie la balle correctement. Donc, notre Cédric, il se sent plutôt OK et voilà, il révolutionne pas le monde, mais il répond correctement aux attentes de l'environnement. Et puis, il y a l'État au-dessus, l'État suprême que j'appelle le Graal, et qui est l'État de performance, qui fait partie de cet état d'intelligence, de la gradation de l'état d'intelligence. C'est voilà, ce qu'on va tous rechercher le plus, qu'on en soit conscient ou pas. On va rechercher à transformer l'essai, à faire la différence par rapport aux autres, parce que évidemment qu'on n'a pas envie d'écraser son voisin, mais on a envie quand même d'être reconnu pour ce qu'on a, pour ce qu'on peut montrer au monde. Et donc, ça, c'est la performance. La performance, c'est quand on va arriver à faire quelque chose qui va faire consensus, qui va faire qu'il y a au moins quelques personnes qui vont dire waouh. Et là, quand il y a au moins quelques personnes qui vont dire waouh, ça peut
C'est ça,
être.
quand j'ai lu votre livre, hein, j'ai fait
Oui.
waouh tout le temps.
C'est chouette. Bon, bah, alors, être en performance. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est que quand vous avez lu mon livre, vous avez dit waouh tout le temps.
Ah
J'en suis
oui,
ravie, j'en
ah, je me
suis
suis régalée.
honoreuse, ravie.
C'était splendide.
Ce que vous me dites, évidemment, me touche énormément. Et en plus, ça vient alimenter mon propos. Je dis dans ce livre que on peut pas être performant seul dans sa chambre. On peut être un génie seul dans sa chambre, mais on ne peut pas être performant seul dans sa chambre. Parce que la performance, ça demande un consensus d'une personne, deux personnes, 10 personnes, 1 million de personnes. J'espère qu'un jour, ça arrivera à 1 million de personnes, ce que je vous propose. Si j'avais eu seulement cette idée seule dans ma chambre, à vrai dire, je l'ai eue dans ma salle de bain. Donc, on va prendre l'idée de la salle de bain, puisque le jour où j'ai eu cette eureka de ce que c'était que l'intelligence, j'étais dans ma salle de bain. Et avant que j'appelle mon mari pour lui dire Julien, viens vite, ça y est, j'ai le truc. Je sais, j'étais toute seule devant mon miroir, à vrai dire, est-ce que c'est symbolique, je ne sais pas. Et tout d'un coup, j'ai eu cette eureka. Et quand j'ai eu cette eureka, j'étais pas encore performante. Là, il n'y avait pas de performance. J'étais toute seule avec moi-même. Et si il n'y avait pas eu quelqu'un pour lire ce que j'avais à dire ou pour entendre ce que j'avais à dire à ce moment-là. Et mon mari, quand il est venu dans la salle de bain, il n'a même pas encore fait waouh, il a dit ah ouais, c'est pas mal, ça ne lui a pas encore parlé. Ça lui a parlé quand vraiment j'ai construit toute ma théorie et que je lui ai proposé. Et là, il a dit ah ouais, je peux dire comme ça tue sa race. Il a dit comme ça, même si je suis pas
Exactement ce
trop.
que j'ai dit à mon mari aussi en lisant votre livre. J'ai
Ah,
dit à mon
c'est chouette.
mari, mais cette femme, j'ai envie de lui manger son cerveau.
Et ben alors, j'en suis super, super flattée. Et à ce moment-là, oui, j'étais performante. Mais pas quand j'étais dans ma salle de bain toute seule et que j'avais cette idée. On n'est pas performant seul dans sa chambre. La performance, c'est un consensus. Celui qui s'entraîne pour faire une performance, quand il est à l'entraînement, même s'il fait, je sais pas, quelqu'un qui fait du saut en hauteur, il arrive à passer, je ne sais pas quelles sont les normes du saut en hauteur, je vais peut-être dire une bêtise, 5 mètres, je ne sais pas si ça existe, hein, 5 mètres de saut en hauteur tout seul quand il est dans le stade tout seul, ce n'est pas une performance. C'est une performance quand il y a des yeux pour le voir et des gens pour dire waouh. En revanche, on peut être un génie seul dans sa chambre. C'est pour ça qu'il y a des génies méconnus. Il y a le voilà le peut-être que est-ce que je peux me dire que je suis un génie parce que j'ai trouvé cette idée de l'intelligence quand j'étais seule dans ma salle de bain? Là, on aurait pu dire ben c'est un génie qui a performé quand elle a écrit son livre et qu'il y a eu des yeux pour le lire et qu'elle a pu faire consensus au moins d'un tout petit peu de personnes. Mais si ça en était resté là, je n'aurais été qu'un génie méconnu, la fille qui vraiment, vraiment se la joue. Mais je trouve qu'en effet, voilà, on va revenir à un vrai génie, un Léonard de Vinci. Voilà, s'il n'y avait eu aucun œil pour le voir, il aurait été un génie méconnu. Mais là, il y a eu des yeux pour voir ce qu'il a fait. Donc, non seulement il est performant, mais en plus, c'est un génie. Voilà. Donc, ça répond aussi à la philocognition. C'est-à-dire que un Cédric Villani que personne n'aurait lu, entendu, vu, ça serait resté un philocognitif. Il y a des philocognitifs qui ne sont pas performants, qui n'arrivent pas à montrer au monde ce qu'ils savent faire. Ça n'empêche que ce sont des philocognitifs. Donc, c'est ça la grande différence entre la philocognition et l'intelligence. La philocognition, ça n'est pas de l'intelligence, c'est de la philocognition. C'est simplement quelqu'un qui sait bien penser, qui aime penser, qui sait bien penser, qui est addict à la pensée. Ça ne veut pas dire qu'on est intelligent. Quand on est intelligent, ça veut dire qu'on sait montrer au monde ses capacités, sa capacité de raisonnement pour les philocognitifs ou ses capacités dans le sport si on est un sportif, ses capacités dans l'art, dans les mathématiques si on est un Cédric Villani. Mais voilà, l'intelligence est un état que tout le monde peut atteindre. Parfois, on va l'atteindre seulement 10 minutes dans sa vie. Parfois, on va l'atteindre comme les performants que j'ai interviewés sur un temps plus long, et plusieurs fois dans sa vie. Donc, on peut être qualifié de performant, même si les performants que j'ai interviewés, ben, peut-être que demain, c'était intéressant. D'ailleurs, je suis désolée, je fais un long monologue, mais Francis Kurkdjian, qui est un grand parfumeur, vraiment sa maison de parfumerie explose. Il a fait le parfum Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Il a fait vraiment de grands, grands parfums. Et j'aime bien sa théorie. Il me dit que pour lui, on est au top pas plus que 15 ans. Que pendant 15 ans, on arrive à être au top, mais qu'on ne peut pas tenir plus que ça. Et qu'après, une fois qu'on a été au top, moi je le traduis comme performant, et ben après, on vit sur ses lauriers, voilà, on surfe sur sa vague, mais que vraiment la performance dans le sens d'aller à la rencontre du monde et de récolter des médailles, c'est pendant une quinzaine d'années. Alors peut-être que Roger Federer fera mentir Francis Kurkdjian, ce que j'espère. Je ne sais pas s'il a passé les 15 ans, Roger Federer, mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, la performance, étant donné que c'est l'état le plus élevé de l'intelligence, ben, en effet, c'est fluctuant et selon Francis Kurkdjian, ben, ça peut être seulement pendant une quinzaine d'années. À voir, il y aurait des études à faire là-dessus.
Alors, votre livre est passionnant et génial, puisqu'il est aussi extrêmement philosophique, très ancré dans la vie, puisqu'il y a un moment, moi, ça fait partie de mes moments préférés, où vous décorrélez la performance avec le bonheur. Vous dites, on rêve de performance, mais pas de bonheur. Le rêve de bonheur est un rêve de sécurité. Le bonheur est une résignation. Vous dites que le bonheur n'est pas la question du performant. La performance n'obéit pas aux règles sociales. Le bonheur n'est pas une vertu que l'on peut admirer chez autrui. On admire chez quelqu'un son courage, sa générosité, son humour, pas son bonheur. On convoite le bonheur, mais on ne l'admire pas. La performance, elle, suscite l'admiration. Elle parle de dépassement et de travail.
C'est ça, il y a vraiment et merci de citer cette part-là, c'est presque celle qui est la plus importante pour moi, alors je vous remercie de l'avoir pointée. C'est vraiment, enfin, tous les gens qui aiment philosopher se posent évidemment cette question du bonheur et du dépassement de soi, parce que le dépassement de soi, ça ne va pas forcément avec le bonheur. Et on a tous envie de bonheur et on a tous envie de se dépasser. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi une confusion qui était faite très souvent quand je parlais de performance, notamment dans l'étude que je suis en train de mener avec Dominique Sapé-Marinier, qui est mon acolyte de toujours pour la recherche en neurosciences. Et là, on est en train de traiter les données d'une étude sur la performance. Donc, on a fait passer dans l'IRM plein de gens performants et moins performants, des gens vraiment de toutes les catégories de performance, plus ou moins. Et on leur a fait passer des tests de QI. Moi, je ne sais pas si je peux donner les premiers résultats, mais je crois que je les ai déjà donnés ailleurs, mais sans parler des résultats en imagerie cérébrale, parce qu'on est encore en train de les traiter, mais les résultats déjà des tests de QI montrent que donc on a trois groupes des personnes qui sont en antiphase, en compétence et en performance. Et en fait, dans les trois groupes, il n'y a pas de différence significative entre les QI des uns et des autres. Donc ça, je trouve que c'est... J'ai pleuré de joie quand j'ai eu ces premiers résultats, parce que ça viendrait confirmer quand même cette idée que le QI, c'est pas l'intelligence. Ça viendrait pas confirmer ça, parce que c'est une question de postulat, mais en tout cas, la performance n'est pas corrélée avec le QI. Donc voilà, ça c'est un premier résultat que je trouve chouette. Mais pour revenir à nos moutons du bonheur et de la performance, quand j'ai on a même eu un refus de subvention à un moment pour subventionner cette recherche, parce que on nous disait mais la réussite, c'est pas ce qui est important. Il y a eu quelque part où on a demandé des fonds et on nous a dit c'est pas ce qui est important, la réussite, la performance. Ce qui est important, c'est le bonheur. Donc on subventionne pas, parce que les gens cherchent pas ça. Ils cherchent pas à réussir. Ils cherchent à être heureux. Et ça m'a fait très mal, évidemment. Et souvent, quand je parlais de mon étude sur la performance, ou quand je parlais de mes travaux, de mes questionnements sur la performance, on me renvoyait au bonheur. Et pour moi, c'est pas la question, évidemment, que je cherche le bonheur comme tout le monde, que tout le monde cherche à plutôt. Enfin, si on vous dit, est-ce que tu préfères être heureux ou malheureux? Bien sûr que les gens préfèrent être heureux que malheureux, sauf des gens qui sont masochistes, mais c'est encore autre chose. Quand on cherche la performance, souvent on obtient plus de bonheur, mais et encore, le bonheur, je trouve que c'est une chimère, que ça n'existe pas, le bonheur. Le bien-être, ça existe, mais le bonheur, je crois que c'est un idéal, c'est une étoile vers laquelle on tend, mais quand on cherche le bonheur, je pense que c'est là qu'on s'en éloigne le plus, parce que le bonheur, selon la définition commune de bonheur, c'est simplement du bien-être, c'est simplement quand on est là, béat devant un coucher de soleil. Mais on ne peut pas être tous les jours béat devant un coucher de soleil, ou quand on a la maison, le chien, la famille, les enfants, le petit jardin avec le joli portail. C'est ça l'idée qu'on se fait du bonheur. Et en fait, quand on a tout ça, les gens qui ont tout ça vous diront, mais ouais, maintenant que j'ai ça, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus, j'aimerais bien avoir cette petite étincelle. Et cette petite étincelle, c'est la performance. En fait, le bonheur, je crois vraiment qu'on va le rechercher quand on est résigné, quand on se sent attaqué par la vie, quand on a pris trop de claques dans la figure et qu'on se dit, waouh, j'aimerais bien avoir un petit peu de soleil là. Ça, c'est le bonheur. Et donc, je crois vraiment que c'est une résignation. Et pour aller plus loin dans ce que je vous dis, je vais vous parler d'une anecdote personnelle, enfin, ou d'un moment de vie personnel. J'étais avec ma maman, je ne sais pas quand c'était, il y a un an, 2 ans, 3 ans, je ne saurais pas vous dire. On avait une conversation, comme on en a beaucoup, un peu philosophique, et un peu évidemment comme beaucoup de gens, quand j'ai des questionnements, j'en discute avec ma maman. Et étant donné que bizarrement ma maman est plus âgée que moi, petit moment drôle, je me posais à ce moment-là la question de la vieillesse, et comme beaucoup, la vieillesse me taraude un petit peu, l'idée de vieillir, de plus être en capacité de faire tout ce que je souhaite. Et donc, je vais voir ma maman. Je dis, ah, voilà, alors la vieillesse, et comment tu le vis, toi? Parce que ça, enfin, qui d'autre qu'avec une maman, on peut dire, bon, toi, je me dis, ça doit être un coup de poignard, la pauvre, quand on lui dit, bon, toi qui es vieille, comment tu le vis, le truc? Comment tu arrives à faire? Et comment ta sexualité évolue? Et comment.
Mais c'est
Les
ça.
questions, quand même, à qui on peut poser ces questions-là d'autre qu'à sa maman? Et ma maman me répond, mais non, tu verras, ma chérie, il y a les couchers de soleil, il y a en fait, quand autrefois j'allais chercher des grandes choses, de faire de grands accomplissements, bah là maintenant, quand je vois une fleur pousser dans mon jardin que j'ai planté moi-même, je suis heureuse et tout. Et en fait, au contraire de m'avoir rassurée, ça m'a pas du tout rassurée, parce que je lui ai dit, elle n'était pas d'accord avec moi, mais ça, c'est une résignation, en fait. C'est parce que tu peux plus faire tout ça, tout ce qu'on peut faire quand on a mon âge. Et vous vous rendez compte ce que j'en vois à ma maman quand même. Tu peux plus faire tout ça, et donc maintenant, bah, il te reste plus que le coucher de soleil pour être contente, quoi. Donc c'est horrible ce que tu me dis, maman. Et bon, évidemment, on en a ri beaucoup toutes les deux, et elle m'a dit, ben, non, je le vis pas comme une résignation. Alors c'est sûr, quand on arrive à faire le deuil de quelque chose de sa vie, on le vit pas comme une résignation, mais c'est quand même, je pense, un moment difficile, et ça me fait dire que quand on est en performance, ben non, c'est pas le moment de se résigner et d'être béat devant le coucher de soleil. Il y a d'autres moments pour ça. Il y a le moment des vacances de Cédric Villani, mais la performance, c'est un dépassement de soi. Et donc, quand on est en performance, non, hélas, je pense que c'est pas le moment pour se poser la question du coucher de soleil et de son bonheur. Par contre, je pense que quand on est en performance, on atteint plus de bien-être que quand on ne l'est pas, parce qu'on a des retours comme le vôtre. Enfin, imaginez, enfin, j'imagine que tout le monde aimerait être à ma place à cet instant et dire votre livre, en s'entendre dire votre livre, ça m'a fait une claque, vous voyez.
Ah ouais.
Et ça, c'est ça la performance, c'est d'avoir ces moments-là où il y a quelqu'un qui vous dit ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu proposes, ça m'a donné une claque, j'imagine une claque positive, en tout cas, je l'espère.
M'a fait
Donc
du
voilà,
bien.
ça m'a fait du
Votre livre
bien.
fait du bien.
C'est gentil, merci.
Votre livre fait du bien, il est utile et il fait résonance avec. En fait, pour moi, il résonne énormément avec le. Avec le monde, avec mon monde, avec le monde, je trouve qu'il est waouh, il est waouh. Wow. Et j'invite tous les auditeurs à lire ce livre parce que vraiment, il est innovant dans son approche, dans la manière dont il a effectivement vous apporté une autre manière de réfléchir et de poser sa vie, quoi, et de raisonner dans le monde et d'appartenir au monde. Et je
C'est
trouve
ça.
ça super, je trouve ça super, je trouve ça super. Il fait beaucoup réfléchir. Moi qui suis à la fois aussi, je me suis bien reconnue dans votre livre. Je comprends en fait logique du performant, quoi. D'ailleurs, quand vous le décrivez, ce qu'on comprend, donc, c'est qu'il a une autonomie de la pensée qui lui est propre. Il est très indépendant
Oui.
de la pensée du collectif, en fait, de la société.
Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, bizarrement, il n'est pas indépendant, parce que le performant, pour moi, c'est le plus systémicien, si je peux employer un terme un peu scientifique, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est celui qui est le plus connecté à l'univers, c'est celui qui est le plus connecté au monde. Donc, il est vraiment dans l'interdépendance, puisqu'il se sent. Il va être dans les éléments et utiliser les éléments pour gravir le sommet. Donc, il n'est pas indépendant en ce sens-là. En revanche, il est complètement autonome, c'est-à-dire que ce consensus, ça ne va pas être tout de suite. Qui va réussir à l'obtenir. C'est pas la personne complètement insipide qui va être bien sous tout rapport, et tout le monde va tout le monde va l'aimer, l'accepter parce qu'il est bien sous tout rapport et qu'il n'apporte rien d'extraordinaire, mais que c'est quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Le performant, ça peut être d'ailleurs quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, c'est pas ça la question. Il y a des performants qui sont des gens, qui sont des gens bons, généreux, etc. Et puis d'autres qui sont de vrais égoïstes. C'est encore pas la question. C'est quelque chose d'autre qu'on me dit souvent. Je fais une parenthèse pour dire que voilà, c'est pas comme dans toutes les populations, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, ou des gens que vous dont vous vous diriez c'est quelqu'un de bien, et moi je dirais non, c'est pas quelqu'un de bien. Donc parmi les performants, il y en a ni plus ni moins qu'ailleurs. Mais en quoi il est autonome, le performant, c'est que c'est pas, il n'adopte pas la pensée commune, il a une pensée qui va être plutôt originale et il va amener les gens à faire consensus autour de cette pensée. Donc c'est en ça qu'il est autonome et qu'il est différent. C'est pas j'ai une pensée d'original que personne va tout le monde va être contre moi et personne me comprend. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui va avoir qui va pas penser comme les autres ou qui va avoir sa petite touche personnelle et qui va amener les autres à aller dans son sérail, dans cette touche personnelle. C'est en ça qu'il est autonome et qu'il est très, j'appelle ça l'autonomie émotionnelle et sensorielle. Je ne vais pas me laisser dicter ce que je pense par les autres, mais je vais amener les autres à venir dans mon univers.
Ça va même plus loin dans votre livre, puisque les exemples que vous donnez, ce que je ressens, c'est que, au-delà d'amener les autres, il n'exprime pas sa pensée, il est sa pensée.
Oh, ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, j'aime que vous disiez ça. C'est tout à fait ça. C'est qu'il a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Simplement, il propose quelque chose. Souvent, on dit que les performants sont des provocateurs, mais c'est vrai, ils sont peut-être provocateurs, ils provoquent quelque chose chez l'autre, mais ce n'est pas forcément en le cherchant. Et d'ailleurs, souvent même, ils sont d'autant meilleurs qu'ils ne cherchent pas. Spécialement la provocation, c'est pas antinaturel, c'est ils vont proposer quelque chose de nouveau qui est eux, et vous avez raison, qui leur ressemble le plus possible, et il se trouve que ça trouve un écho. Et en effet, c'est pas proposer un truc nouveau, c'est être quelque chose de nouveau qui trouve une certaine adhésion.
Et qui font ce qu'ils sont, qui deviennent remarquables du coup. Et je
Oui,
pense à l'exemple de cette jeune femme qui devient pilote.
Mélanie Astol, oui.
Voilà, est-ce que vous pourriez nous parler de son histoire?
Elle est incroyable, cette jeune femme. Mélanie, donc c'est quelqu'un qui a une énergie folle. Elle a, en fait, petite, elle était, disons, dans une famille plutôt lambda, mais qui cultivait beaucoup la performance, qui cultivait beaucoup cette idée d'excellence, de performance. Mais elle-même, à l'école, n'était pas bien comprise. Alors, j'espère que je dénaturerai pas ses propos, mais elle n'était pas bien comprise. Elle avait envie d'être pilote depuis très longtemps, et vu qu'elle n'était pas bonne en maths, on lui disait, mais c'est même pas la peine, tu n'y arriveras pas. Elle a fait, je crois, elle a changé de première, de terminale. Elle s'est un peu perdue dans ses études. Elle a fait différentes sections où elle n'a pas réussi. Elle a lâché le bac en terminale parce que vraiment, elle n'y arrivait pas. Au bout de 3 semaines de terminale, elle est partie, puis donc elle n'a pas passé son bac. Et elle a été embauchée dans une station-service, au départ simplement comme aide. Elle était là, elle tenait le comptoir, hein, voilà, elle rendait la monnaie, elle servait les clients. Elle a eu la chance, si on peut dire, encore une question, est-ce que les performants sont plus chanceux que les autres, ou est-ce qu'ils connectent tellement leur cerveau à l'univers qu'ils font en sorte d'aller chercher leur chance? C'est encore une belle question, je trouve. Donc, elle a eu la chance de tomber sur un patron qui a vu qu'elle avait en elle une capacité à manager, à être force de proposition. Donc, elle s'est retrouvée gérante d'une station-service. Elle a été envoyée, je ne sais plus où, je crois, dans le sud, pour gérer une station-service par ce gérant-là qui avait plusieurs stations-service. Et puis après, elle s'est retrouvée près de chez moi, près de Lyon. Dans une station-service. Et puis là, elle a commencé à économiser avec son petit salaire, à économiser pour se payer 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours de pilotage. Et donc, elle explique dans son témoignage que, elle mangeait des pâtes, elle avait un tout petit appartement, mais tout ça pour se payer des heures d'apprentissage de pilotage. Et alors, je vous passe les détails, mais elle est arrivée comme ça à gravir les échelons, à se prendre d'abord des petites heures de pilotage, mais comme un amateur, pour avoir finalement son diplôme de pilote professionnel, qui coûte, je crois, 100 000 euros. Elle a réussi à avoir des aides, enfin, elle s'est démenée comme une folle. Et puis, en même temps qu'elle faisait ça, elle a passé l'équivalent du bac. Donc, qui n'était pas entre guillemets le vrai bac, mais qui était quand même un équivalent reconnu. Et quand elle s'est présentée au concours d'Air France pour passer le concours pour être pilote pour Air France, et ben au départ on l'a recalée parce qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas le bac, alors qu'elle avait un équivalent. Donc elle a dû se battre pour faire reconnaître, enfin pour dire que son diplôme était un diplôme tout à fait valable, etc. Elle s'est battue là, et quand ils ont finalement accepté, elle a été recalée parce qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas réussi les épreuves psychomotrices. Et elle a trouvé ça étonnant parce qu'elle était plutôt bonne dans ce domaine-là. Elle se bat, on lui a dit, mais écoute, laisse tomber, en général, ils ne font pas trop d'erreurs dans ces domaines-là, etc. Elle s'est battue quand même, elle a demandé à ce qu'on ressorte son dossier. Il s'était planté de dossier.
Extraordinaire,
Elle
extraordinaire.
fait ça. Et, alors, je ne sais pas si c'était Air France, pardon, je crois que je confonds que c'était au plus haut degré d'école de pilotage, mais peu importe,
Fait, après, à un moment, elle fait de la
d'enseignant.
voltige, elle fait de la voltige, elle fait les championnats, enfin, de voltige,
Voilà. Donc,
ça
elle est sortie
va être
major de cette école. C'était pas Air France, pardon, j'ai fait une confusion. Elle est sortie major et ensuite, elle va chez Air France, elle devient pilote chez Air France, mais elle trouve que ce n'est pas son rêve. Elle devient pilote de haute voltige et maintenant elle fait que ça. Elle fait que des shows et des concours de haute voltige et elle est 6 fois championne de France de voltige aérienne et elle vit de ça et c'est une passionnée. C'est une femme merveilleuse, vraiment quelqu'un d'extra. Ouais.
C'est extraordinaire, cette histoire est extraordinaire, comme tout comme votre livre, Le secret des performants de Fanny Nussbaum, paru aux éditions Odile Jacob. Bravo Fanny et
Merci.
merci pour ce livre qui
Merci à
vraiment,
vous.
voilà, moi personnellement, il m'a extrêmement touchée. Je suis
C'est
très contente
gentil.
de partager ça avec ceux qui nous écoutent et qui nous lisent. Merci beaucoup, merci vraiment.
Merci à vous. C'est très émouvant d'être en contact avec vous. C'est chouette,
Ah bah écoutez,
vraiment.
tout pareil, tout pareil, tout pareil. Je trouve que c'est une grande chance d'avoir des esprits comme le vôtre et nous, voilà, on est très heureux et très honorés d'avoir la chance de les mettre en avant parce que voilà, c'est extraordinaire. Donc, merci pour ça. Voilà, je suis très émue maintenant.
Eh ben moi aussi. Alors, comment on fait pour terminer là-dessus? On dit merci, merci, merci.
Oui, et est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot à partager avec ceux qui nous écoutent sur l'intention? Alors, l'intention, je pense qu'on l'a bien exprimée là à travers nos échanges que vous aviez quand vous avez écrit et proposé cet ouvrage. Mais si aujourd'hui, à la lumière effectivement de vos récentes découvertes qui ont permis de confirmer la ligne de votre livre, les arguments que vous aviez exposés, que vous aviez déjà intuités et pressentis, voire même plus que ça, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à la lumière encore de votre chemin qui s'est encore voilà, élargi suite à la parution de votre livre? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire?
Répéter peut-être plus que dire quelque chose de nouveau, que voilà, l'intelligence s'est donnée à tous. Et on peut tous faire la différence. Ça ne veut pas forcément dire aller chercher de grandes victoires, mais à un moment faire la différence, à un moment avoir son bout de lumière. Et la lumière, ce n'est pas quelque chose de sale. Je trouve qu'on veut trop, justement par résignation, faire croire que les gens qui veulent être dans la lumière, ce n'est pas quelque chose de noble. Alors que si, je trouve que c'est noble de vouloir avoir son moment de lumière. La preuve, c'est que quand on est dans l'ombre trop longtemps, trop souvent, on n'est pas bien dans sa peau. Donc, je crois qu'il faut, il faut oser vouloir sa lumière et qu'on peut le faire, qu'il y a une méthode. Alors, ce livre en donne une, mais je développe enfin, évidemment des accompagnements pour des particuliers, avec mon centre et en entreprise avec un ami qui s'appelle Séverin Audet, avec une nouvelle entreprise qui s'appelle Audace, qu'on est en train de créer ensemble et qui va proposer des accompagnements justement en entreprise pour être performant et pour que chacun à son niveau aille chercher sa lumière. Ah ben, je sais sur quoi on peut finir. Ah, mais voilà! Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. La seconde âme en nous se greffe à la première. Toujours la même tige avec une autre fleur. C'est Victor Hugo. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière.
Eh bien, merci Fanny. Merci
beaucoup.
Merci
à vous.
Merci
beaucoup. Merci Amal.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, faites-le nous savoir. Je vous rappelle le titre du livre de Fanny Nussbaum, Le secret des performants, paru aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!